Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir vous accueillir en présentiel, d'autres suivront en ligne, pour ce colloque de rentrée 2020, Civilisation, questionner l'identité et la diversité. Un thème d'une actualité évidente, comme le montre l'ignoble assassinat dont a été victime notre collègue enseignant Samuel Paty pour avoir fait réfléchir ses élèves sur la diversité et la liberté d'expression, valeur cardinale de la République et de la France. Le Collège de France est bien entendu associé à la cérémonie nationale et un moment de silence en son honneur a eu lieu hier. Le colloque de rentrée, vous le savez sans doute, est depuis une quinzaine d'années une manifestation importante dans la vie du Collège de France, manifestation qui ouvre l'année académique et qui veut rendre visible une des grandes préoccupations du Collège de France, à savoir l'enseignement d'une recherche de haut niveau et en toute liberté, mais aussi le dialogue entre les professeurs et professeurs du Collège et leurs invités. Cette année, le colloque de rentrée aura dû accompagner l'ouverture de l'Institut des civilisations, un projet phare sur le plan intellectuel et architectural du Collège de France, situé à 52 rue du Cardinal Lemoine, et qui regroupe les professeurs et professeurs du Collège de France travaillant d'une manière ou d'une autre sur les civilisations. Cet Institut des civilisations a été créé en 2012 dans le but justement de coordonner, de développer les chaires, équipes et bibliothèques spécialisées dont la préoccupation est de mieux comprendre la diversité des cultures, des civilisations, des identités humaines. Quatre pôles ont été ainsi créés dans le but de couvrir, sans évidemment pouvoir être exhaustif, des aires géographiques des époques historiques s'étendant du IIIe millénaire avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Via ces quatre pôles que vous avez là, l'IDC a appelé à produire des outils pour mieux comprendre ce qu'on appelle souvent la civilisation ou les civilisations. Mais l'ambition de l'Institut des civilisations est aussi de décloisonner les frontières traditionnelles entre les disciplines, de permettre une interdisciplinarité en élaborant des projets de recherche communs et en mutualisant un certain nombre de services et d'équipements. Comme je vous le disais, ce colloque aura donc dû accompagner l'ouverture de cet institut. Ouverture qui, cependant, a été retardée pour des raisons que vous connaissez et que vous vivez ici. La crise sanitaire a pesé, en effet, sur l'avancement des travaux. Elle se rappelle à nous constamment par des mesures de distanciation que nous devons prendre aussi pendant ce colloque et qui lui donne une ambiance particulière. Néanmoins, il nous a paru important de maintenir cette manifestation afin de montrer que même si le projet architectural n'est pas encore achevé, l'IDC accueille déjà des chercheurs et des chercheuses, mais ne peut pas encore permettre un accès au public. Le projet intellectuel est en plein essor. Le colloque d'aujourd'hui et de demain montre également que ce travail sur les civilisations doit par définition être international et interdisciplinaire et qu'il n'est nullement une chasse gardée des sciences humaines et sociales, mais qu'il demande une vraie interdisciplinarité. Et je remercie d'ores et déjà tous les collègues qui ont accepté de participer à ce colloque. Plus particulièrement, j'ai dit toute ma reconnaissance à mes collègues du comité d'organisation, Patrick Boucheron, Anne Cheng, Vincent Pierren, Louis Quintana Mursi et Philippe Sansonetti pour avoir conçu le programme, et plus particulièrement Vinciane et Louis qui sont chargés de l'organisation et des contacts avec les intervenants. Merci beaucoup. Comme le soulignent d'ailleurs mes collègues qui ont rédigé la présentation du programme, le terme de civilisation est entré dans le vocabulaire européen à l'époque des Lumières. Ainsi, pour Condorcet, le concept de civilisation désigne les progrès accomplis par l'humanité ou par une nation. Le terme, du coup, alors s'oppose à la barbarie. La première conférence, d'ailleurs, de ce matin, traitera de l'émergence du concept de civilisation au siècle des Lumières. Très vite, deux emplois surgissent, au singulier et au pluriel. Au singulier, le terme véhicule une connotation téléologique et évolutionniste. L'idée de la supériorité de la civilisation chrétienne ou judéo-chrétienne blanche légitimait ainsi la conquête du reste du monde et de la colonisation du monde moins civilisé, voire barbare. Au pluriel, le terme désignait et désigne les différentes sociétés pour les classer, pour les qualifier quant à l'idéal de la civilisation par excellence. On peut dès lors parler des civilisations caractérisées par la géographie, par la religion. On peut qualifier certaines civilisations de primitives, celles qui n'auront pas encore atteint le niveau idéal. Je vous ai mis là une caricature du 19e siècle sur School Begins, où vous avez en fait le professeur blanc américain qui enseigne la civilisation. Donc vous voyez comment les civilisations sont regroupées. Les plus difficiles à dompter, ce sont les Noirs. Là, c'est évidemment, c'est les nouvelles régions que les États-Unis ont conquis. Vous voyez un Indien qui est un peu isolé, donc c'est un peu une cause perdue. Vous voyez le petit Chinois qui se tient à l'entrée de la porte, qui ne sait pas très bien s'il sait ou s'il peut entrer. Et puis vous avez les Hispaniques, où apparemment ils ont de l'espoir, parce que voilà, ils sont déjà bien habillés, ils regardent leurs livres, et ils peuvent peut-être intégrer dans les cercles de la civilisation. Ce n'est pas si différent, me semble-t-il, en ce qui concerne les théories sur l'affrontement, le choc des civilisations, qui se reflète par exemple dans le livre de Samuel Huntington. Donc ça, c'est classification donc, de Huntington avec des critères pas toujours évidents. Il identifie 8 civilisations majeures en disant que leurs interactions positives et négatives seront désormais à l'origine de la guerre de la paix dans le monde. Les définitions des civilisations, je n'ai pas le temps maintenant de discuter. Ça, c'est assez mélangé, parfois c'est géographique, parfois c'est religieux, parfois c'est ethnique. Donc, mais selon Huntington, ces civilisations seraient toutes liées à des processus religieux irréconciliables les uns avec les autres. Donc, une vision assez pessimiste du monde et des civilisations. Mais je voudrais justement vous parler... aussi l'actualité montre l'importance, dans les quelques minutes qui me restent, de l'importance de la religion ou des religions dans les débats sur les civilisations. Pour Huntington, je vous dis, le facteur religieux est déterminant pour la constitution d'une civilisation. Et cette importance de la religion est déjà soulignée par Victor Ricchetti de Mirabeau, qui est un des premiers à avoir utilisé le terme de civilisation dans son acceptation actuelle. En 1756, il écrit « La religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité, c'est le premier ressort de la civilisation. » Va alors se mettre en place l'idée d'une supériorité de certaines religions, les religions monothéistes. Et je me suis rendu compte, et ce n'est peut-être pas un hasard en travaillant un peu sur cette introduction, que le terme monothéisme, l'entrée du terme monothéisme dans les langues européennes, ça se passe à peu près en même temps que l'entrée du terme civilisation. Donc il y a quelque chose que ces deux concepts ont en commun. En effet, la Bible ne connaît pas du tout le terme de monothéisme qui serait opposé au polythéisme. Le terme polythéisme, on le trouve peut-être chez Philon d'Alexandrie. Par contre, quant au terme de monothéisme, il semble être un néologisme du XVIIe, XVIIIe siècle. Et à en croire Fritz Stolz, qui a fait toute une enquête sur ce concept, aurait été inventé par les Cambridge Platonists qui voulaient lier la rationalité et une approche mystique du divin. Henry Moore utilise le terme monothéisme pour caractériser et défendre le christianisme contre les concepts déistes, mais aussi contre l'accusation juive selon laquelle la doctrine de la Trinité mettrait en question l'idée de l'unité et de l'unicité de Dieu. Ici, le terme de monothéisme a un caractère d'exclusion. Il affirme que seul le christianisme rend témoignage au seul et vrai Dieu. De l'autre côté, vous avez Henry Bolingbroke, pour qui le monothéisme est l'expérience originelle de toute l'humanité, mais ensuite aurait été, d'une certaine manière, oublié ou dégénéré pour devenir l'animisme, polythéisme, et ainsi de suite. Néanmoins, l'idée, c'est à l'origine l'humanité entier et monothéiste. Donc vous avez, et c'est très intéressant, vous avez dès le début deux manières très différentes de concevoir ce concept dans une perspective exclusive, ségrégationniste, et l'autre dans une perspective plus inclusive. Alors du coup, et nous vivons tous avec ça, dans l'histoire de l'appropriation du terme, c'est souvent l'utilisation exclusive qui a prédominé et qui a mené vers l'affirmation de la supériorité du concept. Pendant longtemps, l'avènement du monothéisme était en effet regardé comme marquant un progrès intellectuel et philosophique dans l'histoire de l'humanité. On postulait ainsi une évolution des religions primitives, vénérant des forces de la nature, vers le polythéisme, reflétant une société déjà bien organisée, vers le énothéisme, la monolâtrie et finalement le monothéisme. Et grâce au monothéisme, l'humanité aurait alors abandonné la divinisation de la nature, se serait libérée d'une soumission superstitieuse aux éléments cosmiques et à des fausses divinités. Ainsi, le monothéisme aura favorisé l'autonomie de l'homme et sa capacité de contrôler les forces de la nature et du cosmos. Évidemment, on va ensuite citer le premier chapitre de la Bible où l'homme est créé à l'image de Dieu et lui incombe donc de dominer le monde et ce qu'il contient. Et ensuite, mais ça c'est une autre histoire, chez certains philosophes comme Bloch, comme Gaucher, le monothéisme serait ensuite la sortie de l'homme de la pensée religieuse, l'avant-dernière étape pour la libération absolue de l'humain. Si on regarde un peu de manière plus détaillée les choses, cette idée d'une évolution linéaire est à mettre en question. Je voudrais citer très brièvement des exemples de la religion mésopotamienne, je n'oserais pas parler des Grecs parce qu'il y avait un sien, donc j'ai un peu peur, donc je parlerai des Mésopotamiens, des Égyptiens et des Judéens. Bien que la culture mésopotamienne soit marquée par un polythéisme très élaboré, on constate à certaines époques, à certains milieux, des tendances vers un énothéisme. On s'attache plus particulièrement à un seul dieu, sans nier l'existence des autres, mais Nabucodonosor Ier veut faire du dieu Marduk, d'abord seulement dieu titulaire de la ville de Babylone, le dieu central de tout le panthéon babylonien. Sennacherib, qui a détruit Babylone, veut réécrire l'épopée Enuma Elish, la grande épopée de la création, pour remplacer Marduk par Assur, qui devient le dieu du ciel et de la terre. Et ensuite, le roi babylonien, Nabonide, quant à lui, peut faire du dieu lunaire Sin le dieu principal, voire exclusif, de l'empire babylonien. Donc, d'ailleurs, vous savez peut-être l'histoire de Nabonide, il a créé une nouvelle capitale, Athéma, ce qui n'est pas sans rappeler mon deuxième exemple, le pharaon Akhenaton, hein, qui est souvent présenté comme étant le premier monothéiste de l'humanité. Je ne vais pas discuter des origines des mobiles de la révolution dite monothéiste, les égyptologues eux-mêmes sont très nuancés par rapport à cela, mais toujours est-il qu'ils fondent une nouvelle capitale et qu'ils réorganisent le culte voué à la seule vénération d'Aton, le disque solaire. Le roi met en route une grande entreprise iconoclaste qui vise avant tout à effacer toute trace d'Amon, mais aussi des autres dieux. Il y a un hymne à Aton, qu'on retrouve d'une certaine manière dans la Bible, dans le psaume 104, où, en effet, on peut parler d'une sorte de monothéisme cosmique préfigurant le déisme de certains représentants des Lumières. Aton, la Lumière, est le Dieu unique qui crée des millions de formes tout en demeurant dans son unité. Néanmoins, cette nouvelle religion ne va pas durer. Elle reste une religion très royale. Akhenaton est le fils d'Aton, le seul qui connaisse Dieu, et d'autres textes et représentations, comme l'image que je vous montre, donnent même l'impression que le couple royal formait avec Aton une sorte de trinité divine. Et pour la petite histoire, bien que Freud et d'autres ont à la suite du prêtre égyptien, donc on peut très bien trouver l'origine de cette idée, fait un lien entre Akhenaton et Moïse, donc de nouveau voulant faire une sorte d'évolution linéaire, cela évidemment ne marche pas du tout, donc il n'y a pas d'évolution linéaire de la pensée religieuse de l'humanité. Dès la mort d'Akhenaton, cette entreprise a été finie très très vite. Même chose, peut-être plus étonnante, pour la Bible. Quant à la Bible hébraïque, évidemment, on peut dire qu'elle confesse le Dieu un et unique, mais néanmoins, elle conserve un certain nombre de traces qui indiquent que la vénération de Yahvé, le Dieu d'Israël de Juda, n'a pas été exclusive durant très longtemps. Je vous donne juste quelques exemples. Là, il y a un texte du livre du Deutéronome, reconstruit à partir des fragments de Qumran et de la Septante, la Bible grecque. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez en effet qu'il y a un autre Dieu qui crée le monde, c'est El, qui a le titre de Elion, et au moment où il crée le monde, il attribue en fait à Yahvé, Jacob, Israël. Donc dans ce concept-là, vous avez en fait l'idée d'une assemblée de divinités présidée par Elion, un titre de El ici, et qui en fait distribue au moment de la création du monde à chacun de ses fils, à Ougarit il a 70 fils, hein, à chacun de ses fils il donne un peuple dont il doit s'occuper. Donc ça veut dire en fait que tous les dieux tutélaires des Phéniciens, des Moabites, des Ammonites, c'est tous des frères, ils sont tous en fait fils d'El. Et ce n'est pas un seul texte, vous avez aussi le psaume 82, où de nouveau Yahvé se tient dans l'assemblée de El, hein, donc il est un de ses fils qui évidemment veut être plus important que les autres, mais on garde en fait toujours ce concept, et c'est dans la Bible. Et même dans les textes récents de l'époque perse, où ce qu'on peut appeler le monothéisme va se mettre en place, vous avez toujours l'intégration de ces perspectives. Dans le livre de Job, que vous connaissez bien, à l'origine, disons, à l'ouverture, vous avez ce cours céleste hein, où Yahvé trône avec ses ministres, et un de ses ministres, ou agent secret, c'est le Satan qui vient le voir et qui le convainc de tester le pauvre Job. Mais donc là, d'un côté, on peut dire on est déjà dans un concept monothéiste, mais en même temps, ça reste très polythéiste. Je voudrais encore très brièvement évoquer une autre opposition, mais qui est aussi une opposition compliquée et dangereuse, voire difficile, c'est l'opposition entre Israël et Canaan. Si vous prenez la narration biblique, Abraham viendrait de Ur en Mésopotamie, serait donc venu en Canaan où il aura séjourné pendant un petit moment, sans se mélanger avec les Cananéens. Ensuite, avec Jacob, le peuple descend en Égypte, où il sera en effet opprimé, et puis il sera libéré par Moïse, qui le fait sortir. D'abord, ils doivent errer dans le désert, mais ensuite, il y a une sorte de blitzkrieg, où, en fait, en 14 jours, ils annihilent, ils exterminent toute la population autochtone, les Cananéens, et ils s'emparent du pays. Et la Bible va construire, en effet, une opposition entre Israël et Canaan. Donc, quand tu... Je ne vais pas vous lire tous ces textes, vous pouvez le lire vous-même. L'idée, c'est qu'une fois vous serez entré dans le pays, c'est mis dans la bouche de Moïse, il faut surtout massacrer tout le monde, il ne faut pas faire d'alliance, pas d'intermariage, aucun contact. Donc, on est en effet deux civilisations, deux entités très différentes. Et c'est des textes comme ça, on peut très bien le montrer, qui ont servi en Afrique du Sud de légitimer l'apartheid, surtout avec le texte du Deutéronome, et qui ont été aussi utilisés par des pasteurs américains pour légitimer l'esclavage. Donc c'est cette idée d'une opposition entre le peuple élu et Canaan, qui sera justement les idolâtres et les tous autres. Et ça a été, en effet, véhiculé très longtemps, non pas de cette manière-là, mais par les scientifiques aussi, avec cette idée, en effet, que entre Canaan et Israël, il y aura deux ethnies qui n'auront rien à faire l'un avec l'autre. Et là aussi, on peut dire quand même que, sur le plan archéologique, on sait aujourd'hui que c'est une mystification ou c'est une idéologisation. On sait très bien, en fait, que ce qu'on va appeler plus tard Israël se constitue à l'intérieur, en fait, de Canaan. Donc, il n'y a pas l'idée qu'il y a une ethnie séparée qui vient de l'extérieur, qui s'empare du pays. On sait très bien ce qui se passe à la fin du XIIIe siècle, au moment où on passe du bronze au fer. C'est une sorte d'effondrement des cités-états cananéens qui sont vassaux des pharaons. Et il y a un regroupement de populations dans les montagnes, un regroupement souvent constitué par des gens que les Égyptiens et les Acadiens appellent Apirou. Mais ce n'est pas du tout un terme ethnique, c'est un terme sociologique pour des gens qui vivent un peu en marge, qui ne sont pas les très bien intégrés dans ces cités-états. Et c'est ces Apirou, sans doute, qui sont à l'origine du mot hébreu. Donc, ce qui se passe, c'est un long processus, en fait, de déplacement de populations à l'intérieur du Levant. Et donc, il n'y a aucune opposition entre Israël, qui est mentionné pour la première fois déjà en Canaan, par cette fameuse stèle de Mer Nepta, où on voit qu'il n'y a jamais d'exode. En fait, ils sont là dans les montagnes. Le groupe Israël est une confédération clanique tribale ressemblant de groupes cananéens d'une certaine manière, mais qui se sont sans doute sentis à un moment donné différents. Mais cette différence est nullement ethnique, je vous le montre tout de suite, bien que peut-être ils ont déjà cherché des marqueurs, comme par exemple, c'est un grand débat, l'absence, quasi-absence d'élevage de porcs et une culture matérielle distincte de certaines cultures cananéennes qu'on peut observer. Mais sur le plan ethnique, il n'y a en fait aucune différence. Et cette opposition ethnique entre Israël et Canaan a été également invalidée. Et c'est bien aussi parce que ça montre aussi que cette collaboration que nous avons entre les sciences humaines et les sciences exactes, elle marche aussi pour cette question-là, parce qu'il y a eu donc une étude de l'université de Tel Aviv notamment, vous avez tous les auteurs ici, qui en fait est une étude génomique de 9 sites du Levant que vous avez là, dont certains sont sur territoire dit israélite, d'autres sur territoire dit cananéen, avec un ensemble de 73 individus dont on a pu utiliser donc, des ADN. Et le résultat est sans appel, il n'y a pas de différence ethnique entre Israël et Canaan. Il y a des ADN autochtones, il y a des ADN qui viennent mais d'une immigration du Zagros, dont la Bible ne parle jamais, et qui a dû peut-être se passer déjà à l'époque chalcolithique. Mais il n'y a pas d'ADN israélite distincte d'une ADN cananéenne. Donc, j'ai choisi ces exemples justement dans le but de montrer que souvent, on construit des oppositions et des confrontations au nom d'une religion, d'une civilisation, et le but de ce colloque est justement de questionner, de déconstruire certaines idées reçues, certains discours faciles, surtout ce qu'on peut regrouper sur le terme de civilisation. Voilà, je suis au bout de mon introduction. Juste quelques petites informations. On m'a dit de vous signaler que les différents colloques de rentrée font donc sujet d'une publication. Donc, j'ai ici le colloque de 2018, organisé par notre collègue Jean-Noël Robert, Langue et sciences, langage et pensée, qui n'est pas totalement son lien avec le colloque de ce matin. Et je crois que vous pouvez l'acquérir, mais on ne va pas faire la publicité, m'a-t-on dit. Voilà. Et pour le programme, ce qui est magnifique, il n'y a pas de changement de programme. Souvent, on doit annoncer changement. Il n'y en a pas. Il y a juste donc la conférence de cet après-midi de Aparecida Vilaça, qui sera enregistrée ou qui a été enregistrée, mais Madame Vilaça sera présente via Zoom pour pouvoir en effet aussi répondre à des questions, des interventions. L'idée du colloque, mais Vinciane vous le dira plus précisément, c'est évidemment aussi d'avoir un certain dialogue. Nous ne pouvons pas, dans la situation actuelle, faire passer des micros, vous avez compris pourquoi. Donc, si des questions se posent, il faudrait essayer de parler suffisamment fort, mais c'est aussi une manière d'être bref et succinct quand vous avez des questions et de ne pas refaire un cours. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon colloque et puis je remercie encore tous les collègues qui sont venus assister, évidemment aussi à tout le public qui, à certains, ont déjà fait la queue à 8h du matin, donc je vous admire beaucoup. Voilà, et alors, espérons que ça sera à l'auteur de vos attentes. Voilà, merci.